Alors, avant que les enfants nous quittent pour aller avec Nadia, on va raconter une petite histoire. C'est une petite histoire, en fait, il y a 2 semaines, quand j'ai prêché, ou 3 semaines, je ne sais plus quand c'était la dernière fois, là, j'avais parlé de la lumière, en parlant entre autres de la couronne de l'Avent, qui représente la lumière, toutes les lumières qu'on voit et tout ça. Et puis, j'aimerais rebondir un petit peu sur cette couronne aujourd'hui, en vous racontant une histoire. On est en famille parce que Noël, c'est une affaire de famille. C'est une affaire où beaucoup de gens le vivent difficilement parce qu'il n'y a pas la famille, justement. Où il y a des familles, où il y a des conflits compliqués, séparations et autres. Mais c'est quand même un endroit que Dieu a créé pour la famille. C'est là qu'il nous rejoint pour qu'on puisse refaire partie de sa famille aussi. Et il y a toute une maisonnée qui parle, qui rit pendant qu'un enfant se glisse dans la salle et s'approche de la table décorée. Au milieu de toutes les décorations, l'enfant remarque 4 belles bougies dont les flammes brillantes dansent et semblent tenir conversation. La première dit : « Moi, je suis la lumière de la paix, et je me demande pourquoi je brûle. Qui croit encore en la paix ? Regardez ces guerres partout dans le monde, ces gens innocents qui meurent, ces violences dans les écoles. Regardez ces disputes à la maison, ces conflits. Et puis, cette lumière s'éteint. Parce que plus personne ne désirait l'accueillir. En disant ces mots, cette première flamme s'est éteinte, celle de la paix. La deuxième flamme dit cela. Moi, je suis la lumière de l'amour et je me demande aussi si je vais continuer à brûler. Aujourd'hui, les gens s'enferment, ne pensent qu'à eux. Leur seule lucarne, c'est l'écran de télé ou de leur smartphone. Et là, ils voient bien qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas à manger ou qui souffrent. Ils voient tout cela, mais ils restent assis dans leur fauteuil. Ils ne font rien, ils ne bougent pas le petit doigt. Et moi, je vis pour être donné, pour être partagé. Alors à quoi bon vivre ? À quoi bon continuer de brûler ? Et en disant ces mots, la deuxième flamme, celle de l'amour, s'éteignit. Et puis, il y a eu la troisième flamme. Moi, je suis la lumière de la foi, celle qui fait, cela fait des années que je dis, mais ayez confiance en Dieu, il est là avec nous. Il peut nous accompagner, nous épauler, nous porter. Mais qui croit encore en ses paroles, qui a confiance en Dieu, qui s'appuie sur lui? Je crois que je suis moi aussi inutile. Les gens n'ont plus besoin de moi. Et la troisième flamme, celle de la foi, s'éteignit. Et la quatrième bougie répondit, « Non, 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 je vais continuer à briller, toujours. Je suis la lumière de l'espérance. C'est moi qui vous permet de tenir pendant les moments de tristesse, de découragement, de solitude. » Je suis la lumière qui jaillit dans la nuit, dans la doute, dans le froid pour illuminer les terres humaines. Je suis le petit enfant de Bethléem qui sème et qui sème encore et qui rallume toutes les vies éteintes. Et je serai toujours là. L'enfant demande à la quatrième bougie, « Alors toi aussi tu vas t'éteindre ?» L'enfant médita un instant ces paroles. Il comprit que la flamme de l'espérance pouvait redonner vie à toutes les autres flammes. Et il prit alors entre ses mains cette petite lueur et ralluma bien vite les 3 autres, celle de la paix. Celle de la foi et celle de l'amour. Et toutes ces flammes brillèrent d'un si grand feu qu'elles illuminèrent fortement le cœur de tous les convives. Tous en cœur, ils se mirent debout et chantèrent la gloire de Dieu. Alors on chantera, on continuera après. Les enfants vont aller célébrer la gloire de Dieu avec Nadia. Et on va prier juste pour eux. Voilà, Seigneur, on te remercie pour Nadia, pour ses enfants qui sont là. Et on te prie que ces bougies, ces lumières qui viennent de toi, lumières de paix, de foi, d'amour, d'espérance, non seulement s'allument dans leur vie, mais que ça déborde de leur vie, dans leur famille, dans leurs relations. Et Seigneur, que ce soit quelque chose où ils peuvent être ces lumières dans le monde pour toi. Et on te remercie, Père, pour ce que tu veux faire maintenant avec eux et aussi parmi nous maintenant. Amen. Voilà. Alors moi, j'ai perdu mes papiers. Non, ils sont là. C'est tout. Merveilleux. Voilà, donc on va juste poursuivre. Je vais faire une petite intro. Ça ne sera pas très long. Ce n'est pas une prédication en soi. Puis après, il y a différents membres de la famille qui vont aussi partager avec nous. Ces quatre bougies, pour moi, c'est quelque chose qui me touche toujours. Je me dis, mais pourquoi on se fait ces quatre bougies? C'est pas très vieux, en fait. Hein. C'est les années 1800 que quelqu'un a commencé de faire ces bougies, d'y donner différentes significations. Alors, c'était intéressant d'aller un petit peu sur Internet voir ce qu'il en coule. Parce qu'il y a différents mots, différents... Voilà, mais ça se rejoint pas mal. Dans une des histoires ou une de ces bougies, la première, c'est la paix. Et puis, un autre, au lieu de la paix, utilise le pardon. Mais en fait, le pardon, ben, ça parle de la paix. Parce que là où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix. C'est le conflit, c'est la guerre, et on en voit trop dans le monde. Et en fait, cette paix, ce pardon, c'est quelque chose qu'on a perdu. C'est quelque chose qu'on a perdu à cause du péché. Et que Dieu vient simplement nous offrir comme cadeau à Noël en nous disant, voilà, en Christ... Vous pouvez retrouver cette paix, je vous pardonne à cause de mon amour. Et cette paix, ce pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on va aller acheter à la Migros, qu'on va aller obtenir par notre travail. C'est quelque chose qui est obtenu, tu peux mettre la prochaine Tina s'il te plaît. C'est quelque chose qui est obtenu par la foi. Et cette bougie de la foi, pour moi, elle est super importante parce que la première bougie ne peut pas vivre... ne peut pas exister sans la foi. C'est la foi en Christ. Et il y a ces paroles dans Jean où il nous dit « Celui qui croit est sauvé, celui qui croit aura la vie éternelle. » Et il y a toute cette dimension de foi là-dedans, de foi de ce que Jésus a fait, même si ça paraît un peu folie quand on s'y met dedans. Et puis qu'on regarde cela d'un Dieu qui, malgré qu'on était contre lui, en conflit, qu'on était dans la rébellion, qu'on était dans toutes ces choses, qui est venu, parce qu'il nous aime, malgré tout ça. Il nous a aimé le premier pour qu'on puisse répondre. Et c'est dans cette foi de ce qu'il a fait à la croix, de la résurrection aussi, que la paix, le pardon peuvent être reçus. Non seulement de manière individuelle, parce qu'on est dans une société très individualistique, et dans cette société, on regarde souvent le salut comme quelque chose de moi, c'est pour moi, voilà. Mais Dieu nous ramène en fait dans une famille. Et c'est ce que je trouve extraordinaire. En fait, Noël, c'est beaucoup, c'est un temps de famille, alors vécu dans la joie ou dans la tristesse, parce que des fois, on est seul. Mais il y a quand même cet aspect que Dieu nous rappelle dans cette famille, que Dieu nous rappelle, il nous replace, en fait, là où lui-même est notre Père céleste, où Jésus est notre frère, où on a le Saint-Esprit qui habite en nous. Et tout ça, c'est obtenu par cette foi. Mais cette foi, si elle s'arrêtait là, eh bien, elle ne sert à rien non plus. Et cette foi, elle doit s'exprimer. Elle va s'exprimer, c'est la troisième bougie, elle va s'exprimer dans l'amour, dans la joie. La joie de cette paix et de ce pardon obtenu. Et voilà, on a chanté ce petit chant, je lève les mains, tout ça. Hein, je ne sais pas si vous le chantez avec joie ou bien si vous essayez juste de suivre les paroles, parce que ça va un peu vite. Mais il y a ce côté de joie, d'amour qui est là, de Dieu, et c'est ça qu'on célèbre. Et j'aimerais juste lire ces quelques versets d'un Corinthiens 13. En préparant avec en tant que famille, quoi. C'est un passage qu'on a eu à cœur pour cette matinée. Juste ces quelques versets sur l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. Et puis on partageait juste brièvement là-dessus un petit peu vendredi soir en tant que famille. Moi je me disais, mais purée, de vivre ça en famille, c'est déjà pas évident. Hein. Et puis voilà, c'est cette lumière qui vient pour le monde, c'est son cœur pour le monde. C'est pas juste pour une famille ou un petit groupe nucléaire, quoi. C'est beaucoup plus large que ça. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et je crois que pour nous, c'est un endroit où Dieu s'est exprimé dans l'amour, dans la joie. De Noël, quand Jésus vient dans le monde, le jour de la résurrection, quand il est ressuscité. Mais il y a aussi ce côté où on est appelé, nous, à exprimer ça dans nos familles, même envers ceux, peut-être, qu'on n'a peut-être pas trop de crochet avec ou de feeling avec. Et de dire, ben voilà, il y a ça, comment est-ce qu'on va transmettre ça? Et pas seulement à nos familles proches nucléaires, et peut-être étendu dans nos familles de sang, mais aussi dans ceux qui n'ont pas de famille. Comment est-ce qu'on peut devenir famille? Et ça, c'est un des thèmes de l'Église, c'est quelque chose qu'on a à cœur, et en tant qu'Église, de devenir famille pour ceux qui n'ont pas de famille. Et ça coûte beaucoup, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de joie là-dedans. Et puis cet amour, ben, des fois, s'il n'y a pas de réponse, si la réponse est plutôt négative, si ce n'est pas reçu, s'il y a de la critique, s'il y a toutes ces choses... Eh bien, elle a besoin de persévérance, elle a besoin d'espérance. Juste de s'arrêter là, avec la paix obtenue, la foi, l'amour, il manque encore l'espérance. Parce que sans cette bougie qui nous fait voir plus loin, qui nous annonce un règne de justice et de paix dans lequel on croit, qu'on va aussi transmettre autour de nous, eh bien, cet amour, il va vite se refroidir et devenir, ben, s'éteindre quelque part, quoi. Comme on a vu ces bougies s'éteindre. Et c'est un tout petit peu, voilà, ce message de Noël que je voulais vous transmettre, hein, qu'on puisse vraiment se positionner soi-même aussi là-dedans. Où c'est qu'on en est dans cette paix, ce pardon? Est-ce qu'on l'a reçu, pas reçu, obtenu par la foi? Où on en est dans notre foi? Parce que c'est quelque chose de vivant, c'est pas juste quelque chose qu'on a reçu il y a 25 ans, 30 ans, 10 ans, et puis c'est tout, non? C'est quelque chose qui se grandit, qui se nourrit. Mais une foi sans les actes, sans l'amour, sans la joie, ben, ça ne sert à rien. Et puis d'être ancré, enraciné dans cette espérance de Christ, de son prochain retour, de ce règne de justice et de paix qui vient. Voilà. Amen. Alors je vais laisser le micro au prochain. Je ne sais pas qui c'est, on n'a pas mis d'ordre, donc sentez-vous libre, là, ceux qui veulent...
Ouais, il y a ceux qui restent avec les papiers, et puis moi je... Voilà, c'est le téléphone. je pense que c'est... Ah, dommage, il n'y a plus le petit. Tu peux remettre... Ah, génial. Je trouvais que c'était vraiment bon. Bah, comme il a dit, vendredi soir, on a pris un temps pour juste prier et puis discuter un peu de qu'est-ce qu'on avait à cœur de partager. Et puis une chose que Florian avait soulevée, c'était le fait qu'une des forces qu'on a, c'était qu'on soit en famille, en fait. Et je pense qu'on est tous en contact avec beaucoup de familles, que ce soit au travail, aux études, ou alors juste des familles dans nos cercles d'amis. Et je pense qu'une chose qu'on peut remarquer très souvent, c'est la division qui existe dans les familles et aussi le manque de famille. J'ai énormément de personnes dans mon entourage, quand je leur demande comment ils vivent la période de Noël, c'est pas souvent quelque chose de très positif. Et ça m'avait vraiment remis en question de savoir comment est-ce qu'en tant que chrétien, on doit se positionner, on est appelé à se positionner pour pouvoir justement apporter cette famille autour de nous. Et comme il l'a dit, pour moi, j'ai vraiment envie juste de quelques minutes me concentrer sur l'amour. Pour moi, le royaume de Dieu peut se résumer en un seul mot, qui est l'amour, parce que tout en découle. Et puis, dans C'est biblique. Dans Matthieu 22, verset 37 à 40, je pense que beaucoup d'entre nous le connaissent. Il parle de un des disciples demande, mais qu'est-ce qui est le plus grand commandement? Enfin, non, c'était pas des disciples. Mais il y a quelqu'un qui vient, et il dit, mais c'est quoi le plus grand des commandements? Et il demande ça à Jésus en voulant le tester. En voulant dire, oh, je sais pas s'il va répondre, est-ce qu'il va parler des 10 commandements, est-ce qu'il va parler des 500 autres commandements qui existent dans l'Ancien Testament. Et il arrive tout simplement avec une paix incroyable et il dit, mais le premier des commandements, c'est d'aimer Dieu avec tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, toute sa force. Et le deuxième des commandements, c'est aimer son prochain comme soi-même. Et ensuite, pour moi, on s'arrête souvent à là quand ça en vient, ces commandements, mais moi, ce que j'aime trop, c'est ce qui est dit après. Et il dit que tous les autres commandements sont en fait sous ce commandement. Tous les commandements des prophètes et de Moïse sont sous ces deux commandements. Et on voit en un espace de temps comment tout ce que Jésus a fait est couvert d'amour. Et que tout ce qui était mis en place avant qu'il arrive, avant qu'il meure sur la croix, a été littéralement couvert par l'amour qu'il a pour nous. Et c'est cet appel-là qui place sur nos vies aussi, quel que soit notre appel spécifique, ce que Dieu nous appelle à vivre spécifiquement, il nous appelle à vivre et à être amour autour de nous et transmettre cet amour. Et alors que je pensais à ça, je réalisais aussi beaucoup que on parle souvent de l'amour, on prêche l'amour, on veut vivre l'amour, mais souvent c'est un amour qui s'arrête aux paroles. Et quand je vois la vie de Jésus, qui est notre premier exemple, c'est exactement le contraire. C'est un amour qui s'est vécu, c'est un amour qui s'est vécu jusqu'à mourir pour soi, pour les autres, et c'est un amour qui s'est exprimé de multiples façons. Et pour moi, une des images les plus fortes que après la croix que je trouve dans la parole, c'est quand il lave les pieds des disciples. Et il s'est littéralement abaissé comme un serviteur. À cette époque-là, c'était un acte juste inimaginable pour quelqu'un du rang de Jésus de s'abaisser devant quelqu'un et dire « je veux te laver les pieds ». C'est littéralement « je touche le sol, je touche tes pieds qui sont sales ». Faut s'imaginer, ils n'avaient pas des chaussures comme nous à cette époque. Ils ont marché pendant des heures sûrement, ils allaient de ville en ville, ils avaient sûrement pas des pieds tout propres, tout beaux, ça j'en suis presque convaincue. Et Jésus dit quand même, non, en fait, je vais m'abaisser, je vais venir nettoyer tes pieds. Et pour moi, ça c'est un des actes les plus puissants, en fait, de comment est-ce que Jésus a exprimé cet amour. Et maintenant, dans nos vies, la question que je me pose, c'est comment est-ce que nous, on exprime notre amour? Est-ce qu'on exprime notre amour? Est-ce qu'on prend le temps de l'exprimer? Ou est-ce qu'on est trop dans le « il faut que je fasse ça, j'ai ma liste à faire aujourd'hui, il faut que je fasse ci, j'arrive le soir, ah j'ai encore 5 choses à faire sur ma liste ». Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on apprend à aimer? Parce que honnêtement, j'ai que 23 ans, mais dans mes 23 ans de vie, j'ai réalisé aussi que l'amour, c'est pas quelque chose d'acquis. Quel que soit notre âge, c'est toujours un apprentissage. Je peux parler avec mes parents, je peux parler avec mes grands-parents, je peux parler avec mes frères et sœurs, je peux même parler avec Soraya, et je vais réaliser tout de suite, l'amour, c'est pas quelque chose d'acquis. Et c'est quelque chose qui grandit en nous, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à vivre. Et pour moi, c'est vraiment aussi quelque chose que je désire pouvoir appliquer dans ma vie, et tout premièrement avec ma famille. Si vous nous connaissez un petit peu, on n'a pas vécu aussi la vie toute rose. On a eu des challenges, on a eu des défis aussi en tant que famille. Mais ce que je trouve trop beau, c'est que quand on décide en fait de tout d'abord être aimé par Dieu et suivre cet amour-là, il y a aussi une restauration qui est possible. Il y a un amour qui vient chasser toute peur. Il y a un amour qui vient aussi guérir nos cœurs brisés et qui vient ensuite littéralement se transmettre aux autres autour de nous. Et pour moi, ce que je vis avec ma famille, j'en suis tellement bénie, et je remercie Dieu chaque jour pour la façon dont on peut se tenir ensemble, même à travers les défis, à travers les incompréhensions, qu'on peut rester un et qu'on apprend, en fait, qu'on réalise aussi, en fait, on a encore beaucoup de chemin à faire en tant que famille. Mais on a envie de pouvoir étendre ça aussi autour de nous. Et je pense une des choses pour moi qui m'a le plus marqué quand ça en vient à ça, c'est une fois on était juste avec les frères et sœurs à Ex Machina, là où je travaille, là où Tina travaille, c'est un café. Et y a tous nos collègues qui nous ont vus interagir les uns avec les autres, alors que nous on prenait juste un café. Et après je retourne au travail et là je vois plein de messages sur mon téléphone où les collègues m'ont envoyé des photos de nous. Je dis, mais c'est quand même bizarre, déjà, de un, ils prennent des photos de nous alors qu'on boit un café. Et après, en plus, ils me les envoient. Et je leur demande, mais pourquoi vous avez pris des photos de nous? Et surtout, pourquoi vous me les avez envoyées? Et ils étaient là, mais en fait, on voit rarement ça, des personnes qui, juste parce qu'ils ont envie, vont passer du temps ensemble, vont prendre du temps ensemble. Et il y en a une particulièrement qui a dit, mais en fait, je croyais pas que c'était possible. Je croyais pas que c'était possible qu'aujourd'hui encore il y avait des gens qui voulaient passer du temps ensemble dans la famille nucléaire. Et elle a une famille qui est vraiment brisée et qui elle a vécu énormément de blessures là-dedans. Et en fait simplement de voir, ça lui redonne espoir. Elle a envie de grandir et honnêtement ça la rapproche de Jésus. On a pu avoir des conversations avec elle sur pourquoi je crois, pourquoi ma famille est croyante. Et en fait à ce moment-là, je me suis dit, mais pour que les gens puissent savoir que cette espérance existe, il faut qu'on se montre. Il faut qu'on soit visible. On ne peut pas juste se cacher et dire, ah, mais les autres, Dieu va s'en occuper, il est bon, il est grand, il aime tout le monde, il va aller vers tout le monde. En fait, non, en tant que personne qui se nommant chrétien et qu'on se dit, en fait, moi aussi, je suis ambassadeur de son royaume, ça veut dire qu'il faut qu'on sorte à un moment, qu'il faut qu'on soit d'accord d'être vu, d'être connu en tant que chrétien. Et ça ne veut pas dire crier sur le toit à tout le monde. Mais honnêtement, de mon expérience même à Ex Machina, là où je travaille, c'est vraiment ce que mon père y parlait de l'espérance et puis de la persévérance qui va faire la grande différence. Est-ce qu'on se tient présent avec eux? Est-ce qu'on reste avec eux? Dans les moments difficiles, est-ce qu'on fuit ou est-ce qu'on reste? Et là, je peux vous promettre que quand on reste, il y a des questions qui vont commencer à se poser. Et une des grandes questions que les gens me posent souvent, c'est un, pourquoi est-ce que t'es toujours heureuse? Et deux, pourquoi t'es encore là? Et à chaque fois, je réponds, bah si tu veux savoir la réponse à cette question, il faudra que je te parle de Jésus. Et la plupart du temps, ils sont intrigués. Mais je trouve que c'est vraiment beau de pouvoir se rappeler de ça aussi durant cette période où nous, on a reçu notre plus gros cadeau, plus grand cadeau de toute notre vie, de se dire comment est-ce que je transmets ça, comment est-ce que j'invite d'autres à recevoir ce cadeau. Voilà. Ah, Florian, je pense. J'imagine.
Bonjour. C'était pas hyper prévu, mais j'ai aussi des notes sur mon téléphone. Je veux aussi faire comme les jeunes. Je suis toujours jeune, mais je suis un peu moins jeune que Cindy. Juste pendant que Cindy elle parlait, et puis pendant qu'on a aussi commencé ce culte, j'ai aussi eu l'image que bah là, dans l'histoire de Christian, il y avait ces trois bougies qui se sont éteintes, et il y en avait une qui est restée allumée. Mais qu'il y a des gens qui ont les quatre bougies éteintes. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Et puis je pense que c'est notre rôle aussi de au moins allumer cette première bougie de l'espérance qui peut allumer les autres bougies. Puis on en a tous dans nos familles peut-être aussi des gens où les quatre bougies sont éteintes et je pense qu'à la fin, on prendra un temps où on pourra, s'il y en a à qui ça parle, qu'on puisse prier pour vous encourager et vous équiper pour allumer ces bougies chez les autres. Moi j'avais juste un petit point sur, en fait je viens de penser pendant que Cindy parlait, j'ai un point sur la foi, un témoignage en fait. Ceux qui me connaissent un peu plus, ils savent que je suis assez... si on prend une dynamite, j'ai une mèche hyper courte. Je m'énerve hyper facilement, en fait, dans un cercle très, très privé. Et du coup, un soir, alors que je m'étais énervé, comme d'habitude, je suis allé me coucher. Et puis, j'ai prié vraiment à Dieu. Je lui ai dit, mais donne-moi plus d'amour, parce que j'arrive pas, quoi. Je m'énerve tout le temps. Et puis... quand j'ai prié ça, j'ai vraiment ressenti Dieu qui me disait « Mais arrête de prier pour ça, tu l'as déjà, arrête !» Et je disais « Mais ça va ou bien ?» Et je me suis dit « Mais c'est vrai en fait, on a été équipé déjà, on est déjà créé à l'image de Dieu. Quand on discutait de ça avec Simone, quand on est né de nouveau, quand on a un nouveau cœur, Dieu nous a déjà donné toutes ces ressources-là. C'est le diable, des fois, qui essaye un peu de les cacher et puis se dire, ouais, tu l'as pas. Mais après ça, en fait, je me suis souvenu que Dieu, il m'avait déjà parlé de cette façon plusieurs fois. On a fait avec Nadia, ma femme, une école de disciples ici à Versoix d'ailleurs, Gateways, pendant 6 mois. Et puis on n'avait pas d'argent, comme tous les gens qui font des écoles de disciples presque. Soutenez les gens qui font des écoles de disciples si jamais, c'est important. Et puis un jour, on n'avait vraiment rien, il nous manquait 3000 francs pour faire cette école. Et un jour, je suis allé checker mon compte, les gens ils avaient tous des gros témoignages quand même, de gens qui leur avaient donné 100 francs, 200 francs, mais on est là, oui, mais c'est que 10% de ce qu'on a besoin, nous. Et un jour, je suis allé checker mon compte, on avait reçu 3000 francs, vraiment 3000 francs, 0-0. Et je me suis dit, ah, je vais dire que c'est Dieu, du coup, c'est pas mes parents, c'est pas Simone ou Christian, je vais pas regarder qui c'est qui a versé cet argent. Mais ça m'a quand même travaillé, et j'ai quand même regardé, homme de peu de foi. Et du coup, je suis allé voir, et en fait, sur la ligne, sur les trucs de post-finance, là, c'était marqué aide au ministère. Et aucun, c'était pas une personne de notre famille, c'était des gens de Bâle que je connais absolument pas. Peut-être Simone avec le Suisse allemand. Honnêtement, je sais pas. Bref, Dieu, il m'a parlé avec ça, mais on a dû commencer l'école de disciples sans argent pour recevoir de l'argent. Le truc, c'était de nouveau, pendant cette école de disciples, on était en Belgique. Me demandez pas pourquoi. Et puis on était avec ma voiture, et ma voiture, elle avait plus d'essence. Et on pouvait pas s'arrêter, il n'y avait pas de station d'essence. Le truc, il était vraiment tout en bas. Ça clignotait déjà depuis 2 heures. Et puis moi, je me suis dit, mais c'est clair qu'on va s'arrêter. J'ai jamais vu. Bref. Et puis on a continué de rouler, et ça s'est jamais arrêté. Et j'ai vu l'aiguille aller en dessous du truc qui est gradué, là, vraiment en plus en bas. Donc c'est peut-être une erreur constructeur, j'en sais rien. Mais n'empêche que l'essence ne s'est jamais arrêtée. Et pour voir l'essence qui s'est jamais arrêtée, j'ai dû continuer de rouler. Le dernier témoignage aussi par rapport à ça, c'est qu'avec Nadia, on a déménagé cette année, ce qui est plutôt cool. Mais ce qui est moins cool, c'est qu'en fait, on avait une dédite de 6 mois dans notre ancien appartement. Et puis, on devait emménager dans le nouveau tout de suite. Donc pendant 4 mois, on a dû payer 2 loyers. Et on n'avait pas du tout les moyens de payer 2 loyers. Je ne sais pas si des gens ont les moyens de payer 2 loyers aussi cher. Pendant 4 mois, et j'ai fait tous mes petits calculs en tant que bon Suisse. J'ai regardé mes petits comptes. Je me suis dit, ah, ça pourrait jouer. Bon, on pourra peut-être emprunter 2000 francs à quelqu'un, etc. Enfin, j'ai vraiment... On ne pouvait pas y arriver tout seul. C'était impossible. Vraiment. Ce qu'on a fait, c'est qu'on y est allé. On a pris notre nouvel appart, on avait ces 2 loyers à payer, j'ai fait un virement permanent dans les 2, comme ça j'étais sûr que ça se payait, et que j'avais pas de problème après. Puis on est arrivé fin octobre, à la fin de ces 4 mois, on avait 0 sur tous nos comptes, il n'y avait rien qui était en négatif, et j'ai aucune idée de comment ça s'est passé, mais on a eu des retours des impôts, après j'ai eu des mandats vidéo, moi je fais de la vidéo, enfin il y a eu plein de trucs qui se sont passés qui ont fait qu'on a pu payer pendant 4 mois nos loyers, mais si on n'avait pas essayé, on n'aurait pas vu que ça aurait marché. Et puis tout ça pour dire qu'en fait, tout ça a pris un pas de foi de ma part, la voiture s'est jamais arrêtée, l'argent n'a jamais arrêté de venir. Et puis après ça, j'ai pensé encore à l'histoire de Jésus quand il nourrissait la foule de 5000. Enfin, c'est pas Jésus qui a nourri. Enfin bref, ouais bon, bref. On va pas aller dans les trucs théologiques. On peut en parler après si vous voulez. Je pense pas. Si vous pensez vraiment à cette histoire comme un truc qui s'est vraiment passé dans la vraie vie, je pense pas. C'est pas ça, c'est vraiment passé en soi. Je pense pas que le pain. Tout d'un coup, Jésus il a prié et tout d'un coup. Une tonne 5 de pain qui arrive devant lui. Les disciples, ils ont les bras hyper musclés, ils arrivent à porter tout ça, puis ils amènent tout le truc. Je pense que c'est alors que Jésus brisait le pain, en fait, ça s'arrêtait pas. Mais je pense pas qu'il y avait un camion de pain juste à côté. Et puis donc, les disciples, ils ont dû commencer à distribuer en se disant, je sais pas ce qu'il fait, il a qu'un petit bout de pain, mais ça marche. Et ils ont dû prendre ce pas de foi de continuer la distribution, même s'ils voyaient pas le miracle directement. Et c'est à la fin qu'ils ont vu le résultat. Ils se sont dit, mais punaise, il y a encore 12 paniers alors qu'on avait ces petits pains et ces petits poissons. Et puis je pense que c'est ça, la foi, pour moi, cette bougie de la foi, c'est de se dire, ben, je l'ai pas, enfin, je crois que je l'ai pas, mais Dieu me l'a déjà donné. Ne pas attendre pour le miracle, mais vivre le miracle. Et puis, je pense que Dieu, il aime tellement quand nous, on se lance, parce qu'il sait ce qui va se passer. C'est comme quand ma fille, Soraya, elle est en haut d'un toboggan, et puis qu'elle a super peur. Puis moi, je sais qu'elle aura tellement de plaisir à descendre ce toboggan, que je lui dis, vas-y, ça va être cool et tout. Mais elle a vraiment peur. Là, on a le choix. C'est soit on prie pour que Dieu il enlève la peur, mais c'est pas comme ça que ça se passe en général. Soit on descend le toboggan puis on se rend compte à quel point c'était cool. Et moi, en tant que père, je sais que ce toboggan il est cool et j'ai envie qu'elle fasse le pas de dépasser sa peur puis comme ça la prochaine fois elle va refaire le toboggan, même un plus grand peut-être qui sera encore plus cool. Et du coup, ce que j'ai reçu après cette, comme je vous disais, ce que j'ai reçu après cette demande de plus d'amour, c'est vraiment que Dieu qui me disait, mais pourquoi tu pries pour plus? Tu l'as déjà. Essaye, et ça va jamais s'épuiser. Il y a plein de versets dans la Bible qui parlent de ça. Il y a Marc 11, 24. J'ai tout marqué en anglais parce que je voulais faire ça en anglais au début. Mais en gros, je vous le dis, chaque chose que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et ça sera à vous. Puis après, il y a aussi toute cette histoire sur les poissons que vous pouvez lire. Mais voilà, c'était pour vous encourager sur la foi. Si vous pensez que vous n'avez même pas une bougie allumée, si vous êtes né de nouveau et que Jésus vous a touché, qu'il a changé votre cœur, vous avez déjà cette flamme. Même si le diable essaie de vous la cacher, vous l'avez toujours.
Moi, je suis touchée. Au fond, moi, au début, je ne viens pas d'une famille chrétienne, je ne voulais pas d'enfant. Et Dieu m'a surpris. Et j'ai 3 filles, et je suis émerveillée de voir ce qu'il fait dans leur vie, dans leur conjoint, dans ce qu'il fait en nous. Et ça fait à peu près, j'ai tout écrit, comme ça je peux juste lire. Ça fait à peu près 2 ans que Dieu me prend sur un chemin de révélation au sujet de l'importance de la nouvelle naissance, Florian, et de la puissance de la croix de Jésus. Et j'aimerais exprimer ça dans un style de prière. Père, parce que au fond, moi, je voulais déjà pas. Moi, je voulais pas vivre quand dans ma famille. Alors maintenant, Père, tu m'aimes. Père, tu m'as rendu juste. Je me tiens devant toi, sans tache, pur, propre et beau à tes yeux. Tu m'aimes et tu me désires. Père, je suis émerveillée de voir comment tu m'as lavé et nettoyé. Et tu me fais tenir devant toi comme si je n'avais jamais péché. Et tu me vois justifiée. Père, il est étonnant de voir à quel point tu m'aimes. Merci d'avoir fait de moi ta fille. Père, je te remercie car aujourd'hui, personne ne me doit rien. Quel honneur de vivre ma vie en toi. Je le vois maintenant, la vie est un don. Je me plaignais que la vie est difficile. J'ai été trompée. La vie est un don. Je me suis levée aujourd'hui. Tu m'as réveillée aujourd'hui. La miséricorde m'a donné un autre jour pour être plus comme toi et pour briller dans le cœur des hommes. Merci que je puisse m'investir dans les hommes sans faire tant d'efforts. L'amour est donner sa vie pour les autres. Merci d'avoir changé ma vie. L'amour signifie ne plus jamais être offensé. Il ne s'agit plus jamais de moi. Il s'agit de porter ma croix jusqu'à la ligne d'arrivée. Il s'agit de marcher dans la vie en manifestant Jésus. Peu importe si les gens ont tort, car ma motivation est l'amour. Je change ma perspective. Je n'attends rien des gens, sinon je vais continuer à être déçu et blessé. Je ne veux pas ce que le monde m'a appris. Je désire de vivre ma vie comme Jésus. Je me soumets à Dieu et je sais que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La réponse est toujours vie en moi. Merci Jésus que ta vérité me rend libre. J'ai tout en toi, je ne manque de rien. Merci Père de m'avoir fait amour. Je renonce à tout ce que le monde m'a enseigné et je l'enterre avec le vieil homme. Père, je te remercie d'être en moi. Tu ne me quittes jamais. Tu ne m'abandonnes jamais. Je ne suis pas seul. Je suis comblé en toi. Jésus, merci. Tu as racheté ma valeur, mon identité. Père, je te remercie que tu me donnes une destinée, une raison de vivre. Merci, mon Dieu. Je n'échoue pas. Je suis privilégié de devenir amour. Je t'aime et j'aime mon prochain. Amen.